Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, tout un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine du Monde Aujourd'hui. Une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide à Washington en compagnie de Anne Albertson en ce lundi 10 novembre 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
À la une ce matin, au Burkina Faso, l'opposition et la société civile ont bouclé leur charte de la transition avant des négociations tant attendues avec l'armée. La lutte contre Ebola, les milieux économiques africains offrent 28 millions de dollars pour combattre la maladie. La Guinée, entre-temps, vise ses ressortissants au Mali.
Notre devoir, c'est quoi? C'est de faire au maximum que les gens qui vivent dans notre juridiction soient informés et qu'ils se convainquent elles-mêmes, ces personnes, que cette réalité, cette maladie Ebola.
Dans l'actualité encore, l'ONU affirme avoir libéré pour la première fois de l'aide au Soudan du Sud à partir de Khartoum. À l'international, Barack Obama est arrivé à Pékin, première étape de sa tournée asiatique. Et dans la partie magazine, parfum de scandale au Bénin autour d'une affaire de contrat.
Maître Charles Badou, l'un des avocats de Bénin Control.
Si le gouvernement parvenait à trouver des partenaires qui se voient juger le marché de PBI, la sentence arbitrale dans son exécution deviendra impossible.
Au programme également, le billet sportif et la tranche musicale en fin d'émission.
Au Burkina Faso, l'opposition, la société civile et les chefs religieux ont finalisé hier leur plan pour une transition civile avant des négociations délicates avec l'armée pour obtenir son retrait rapide du pouvoir. Les militaires qui ont pris les rênes du pays après la chute de Blaise Compaoré le 31 octobre, au terme de 27 ans de règne, ont promis, sous la pression de la population et de la communauté internationale, de rendre rapidement le pouvoir aux civils. En attendant, c'est le lieutenant-colonel Isaac Zida qui reste à la tête du pays. Le projet de charte de la transition, qui n'a pas été dévoilé, a été validé à la veille de la visite, ce lundi, du président de l'Union africaine. L'armée a préparé son propre projet après avoir décliné l'offre de l'opposition et de la société civile burkinabé de prendre part à leurs travaux. Nous vous proposerons un décryptage de ce dernier développement dans la tranche magazine un peu plus tard.
Des hommes d'affaires africains se sont engagés à donner 28 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. C'est ce qu'indique un communiqué de l'Union africaine émis à Addis Abeba. Ces hommes d'affaires, représentant différents secteurs économiques à travers le continent, étaient réunis au cours du week-end au siège de l'UA dans la capitale éthiopienne. Ils comptent alimenter un fonds d'aide qui sera géré par l'UA et la Banque africaine de développement, la BAD. Les fonds aideront à équiper le personnel médical qui tente d'endiguer la propagation de la maladie en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
Et toujours dans le cadre de la riposte contre l'épidémie d'Ebola, la Guinée a étendu sa campagne de sensibilisation au Mali, ciblant les ressortissants guinéens vivant dans ce pays voisin. La Chine s'est également engagée dans cette lutte en Afrique de l'Ouest. Elle a fait un don de plus de 420 millions de francs CFA à Bamako. Le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Guillaume Tchéli, chargé d'affaires à l'ambassade de la Chine au Mali.
À part les matériels, la Chine s'engage à envoyer des équipes de médecins en Afrique et à construire un centre thérapeutique au Libéré.
Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
Ce don est composé de 17 000 pièces de combinaison de protection, de 17 000 bavettes, 17 000 paires de gants en latex à usage unique, 17 000 paires de couvre-chaussures, 17 000 paires de lunettes de protection, 200 pièces de pulvérisateur, 200 pièces des thermomètres à infrarouge, 5 détecteurs de température du corps et 3000 sacs mortuaires.
Moussa Mara, premier ministre malien.
Ce don en grande partie vise à faire en sorte que nos combattants de la ligne de front, que constitue le personnel sanitaire, qu'ils aient les outils nécessaires à leur combat et qu'ils soient protégés.
Sur le terrain à Bamako, l'ambassade de la Guinée au Mali a fait une journée de sensibilisation à l'intention des Guinéens qui vivent au Mali. Kabine Kondé, ambassadeur de la Guinée au Mali.
Notre devoir, c'est quoi? C'est de faire au maximum que les gens qui vivent dans notre juridiction soient informés et qu'ils se convainquent elles-mêmes, ces personnes, que cette réalité, cette maladie Ebola, il faut que chacun prenne les dispositions pour empêcher toute démarche vers les guérisseurs. Les guérisseurs n'ont jamais soigné cette maladie. Il faut que tout le monde écoute soigneusement les dispositions et les conseils qui sont en train d'être dits par l'OMS et que chacun les respecte scrupuleusement.
Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
L'ONU a annoncé hier avoir livré un premier convoi d'aide à partir de Khartoum pour le Soudan du Sud, ravagé depuis fin 2013 par une guerre civile. Cette aide va profiter pour un mois à quelques 45 000 personnes de ce pays menacées de famine en raison du conflit. Selon le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU à Khartoum, Ali Zaatari, les 18 premiers camions transportant 700 tonnes de nourriture ont été acheminés samedi au Soudan du Sud. Djouba, Khartoum et l'ONU avaient convenu en juillet d'envoyer de l'aide pour le Soudan du Sud depuis Khartoum. Depuis décembre dernier, des combats opposent les troupes fidèles au président Salva Kiir à celles de son ancien vice-président et rival Riek Machar. Le conflit s'est transformé en affrontement ethnique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et l'Iran ont tenté d'avancer dimanche sur le dossier du nucléaire iranien, mais le président américain Barack Obama a averti qu'il restait un fossé important à combler avant la date butoir du 24 novembre. Henri Francisque.
Il y a encore un fossé important. Nous n'y parviendrons peut-être pas, a reconnu le président américain Barack Obama lors d'un entretien diffusé par la chaîne américaine CBS. Au même moment, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif étaient réunis dans la capitale omanaise, Mascate, pour des discussions dirigées par la représentante ad hoc de l'Union européenne, Catherine Ashton. Les entretiens visent à s'approcher d'un accord qui mettrait fin à plus de 10 ans de crise nucléaire. Les responsables n'ont fait aucune déclaration à la sortie de leur réunion dimanche soir, mais ont convenu de se retrouver ce lundi, selon des sources officielles contactées par l'AFP. Malgré ces dénégations, l'Iran est soupçonné de chercher à se doter de l'arme atomique sous couvert d'un programme civil. Les deux principaux sujets de divergence portent sur la taille du futur programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran, industriel selon Téhéran, réduite selon les Occidentaux, ainsi que sur le calendrier et le mécanisme de suppression des sanctions internationales.
Les Américains ont-ils tué ou blessé grièvement le chef du groupe État islamique lors d'une frappe aérienne vendredi? La question se pose à Bagdad et dans plusieurs capitales occidentales, ici à Kaba.
Abou Bakr al-Baghdadi a été touché au nom dans cette attaque. Cela pourrait ne pas représenter un coup irréparable pour le groupe djihadiste, souligne un officier supérieur de la Grande-Bretagne. Le chef d'état-major de la défense, Nick Houghton, déclare que l'État islamique se dotera d'un nouveau commandement même s'il se trouve qu'un raid aérien américain en Irak ait tué des leaders djihadistes clés. Dans une interview à la BBC dimanche, l'officier britannique a dit qu'il ne pouvait pas confirmer si l'attaque américaine vendredi soir près de Mossoul sur un convoi de véhicules de l'État islamique a tué le chef du groupe Abou Bakr al-Baghdadi. Je ne peux absolument pas confirmer que Baghdadi a été tué. Même les Américains eux-mêmes ne sont pas encore en mesure de le faire. Probablement, il faudra quelques jours pour avoir la confirmation absolue. Ce que je voudrais éviter de faire, c'est de conclure hâtivement que la mort éventuelle d'un de leurs principaux dirigeants va créer un revers stratégique pour le groupe État islamique. Les autorités irakiennes ont annoncé sans précision que al-Baghdadi est sorti blessé de l'attaque de vendredi. Pas de confirmation du côté de Washington.
L'ONU a annoncé la libération d'un ingénieur des eaux sierra-léonais qui se trouvait au Yémen pour un projet d'assainissement, soit un peu plus d'un an après son enlèvement. James Massacoy, qui travaillait pour l'UNICEF, avait été enlevé en octobre 2013. L'ONU dit avoir remercié le gouvernement yéménite et les chefs tribaux qui ont aidé à la libération du prisonnier.
Et de leur côté, Anne Kenneth B. et Matthew Todd Miller, les deux derniers prisonniers américains détenus en Corée du Nord, sont arrivés aux États-Unis samedi soir.
Barack Obama, lui, est arrivé ce matin à Pékin, première étape d'une tournée asiatique au cours de laquelle le président américain aura plusieurs entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping et qui le conduira également en Birmanie et en Australie. Monsieur Obama doit rencontrer dans la matinée le nouveau président indonésien Joko Widodo, puis s'exprimer dans l'après-midi à l'ouverture du sommet de l'Asie-Pacifique.
En Espagne, vote symbolique hier des Catalans sur l'indépendance de leur région. Des 2 millions de personnes ayant participé au référendum, plus de 80% se sont prononcés en faveur de l'indépendance. D'après l'exécutif catalan, le tribunal constitutionnel du pays avait suspendu le vote à la demande de Madrid. Le gouvernement espagnol estime en effet que seul l'ensemble des Espagnols ont le droit de se prononcer sur l'avenir de la Catalogne.
Enfin, commémoration ce week-end du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Chérubin Dorcil nous fait revivre quelques points forts de l'événement.
Une foule en liesse, des dizaines de milliers de personnes à la porte de Brandebourg, l'un des monuments les plus connus du pays, dimanche soir. Une fête populaire, une vraie célébration citoyenne, disent certains. La soirée a été ponctuée d'un lâcher de ballons spectaculaire, 7000 en tout, blanc et lumineux, dans le ciel de Berlin pour conclure les festivités. La chancelière allemande Angela Merkel a rendu hommage à ceux qui sont morts en essayant d'échapper à l'Ouest. Dans un discours, elle a déclaré que la chute du mur nous a montré que les rêves peuvent se réaliser. Pour Mme Merkel, l'événement de 1989 revêt aussi de l'importance aujourd'hui pour les pays déchirés par la guerre.
Wir haben die Kraft zu gestalten. Wir können die Dinge zum Guten wenden.
La chute du mur a montré que nous avons le pouvoir de façonner notre destin et améliorer les choses. Ce message, a dit Angela Merkel, s'adresse à nous en Allemagne, mais aussi à d'autres en Europe et dans le monde, en particulier à ceux qui sont en Ukraine, en Syrie, en Irak et dans d'autres régions où les droits humains sont menacés ou violés. Le mur de Berlin, qui a divisé la capitale allemande pendant plus de 28 ans, est devenu un éminent symbole de la guerre froide entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne. Vous êtes toujours branché sur la VOA, émettant de la capitale américaine. Jacques Aristide avec vous pour aborder maintenant la partie magazine du Monde aujourd'hui. Et retour au Burkina Faso qui tente depuis quelques jours de définir les modalités d'une transition devant conduire à des élections d'ici un an. L'opposition et la société civile comptent soumettre un projet de charte à la hiérarchie militaire qui, elle également, fera part de son projet avant l'adoption d'un document final dans les prochains jours. Comment comprendre ces démarches et surtout le rôle des militaires burkinabés dans l'après-Compaoré ? Chérubin Dorcy l'a posé la question à Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur Paalga à Ouagadougou.
Les militaires, jusqu'à présent, bon, on leur accorde le bénéfice de la bonne foi. Ils affichent à qui veut l'entendre, et notamment au sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines qui était de passage à Ouagadougou. Ils affichent leur volonté de vouloir vraiment remettre rapidement la transition en marche et surtout le pouvoir à un président civil. Maintenant, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, je souhaite vraiment qu'ils tiennent parole.
Les feuilles de route dont on parle à Ouagadougou semblent ne pas laisser de place à l'ancienne majorité.
Oui, le problème de l'ancienne majorité est effectivement posé. Je crois que les militaires veulent de quelque chose qui n'exclut personne. Au niveau de la société civile et de l'opposition, je crois qu'ils sont aussi d'accord, mais ils pensent quand même qu'il y a des préalables. Et je crois que l'opinion publique dans son ensemble pense qu'il faut quand même que cette opposition fasse un peu son mea culpa, qu'elle fasse un peu son autocritique pour reconnaître quand même sa part de responsabilité dans la dégradation de la situation qui a abouti aux événements que nous connaissons.
Je pense aux prochaines échéances électorales. Donc cette ancienne majorité ne pourrait apparemment pas y participer.
Non, je pense que les gens ne vont pas jusque-là. Pour les gens, il s'agit pour le moment des organes de transition et même de leur participation aux côtés de l'opposition à certaines négociations, comme la fois dernière quand les présidents de la CEDEAO étaient présents à Ouagadougou. On les a vus venir avec à leur tête des figures emblématiques, c'est-à-dire des gens qui étaient bien connus, qui étaient de farouches partisans de la modification de l'article 37. Les gens pensent quand même qu'il y a comme une espèce d'indéfense. Les gens ne sont pas pour qu'on les exclue totalement, surtout pas pour les échéances électorales à venir.
Si l'on vous demandait votre point de vue, M. Ouedraogo, à propos des dangers à éviter pendant cette transition, que diriez-vous?
C'est de faire tout pour ne pas marginaliser l'armée. Il faut que l'armée se sente concernée et partie prenante des organes de transition. Parce qu'on a besoin de l'armée, c'est-à-dire de sa force, de son organisation, pour sécuriser le processus. Donc, il faut la mettre en confiance.
Le journaliste Edouard Ouedraogo, également président du groupe d'études et de recherche sur le développement économique et social.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La révolution burkinabé qui fait réfléchir la classe politique du Togo. L'opposition se penche en ce moment sur la question de candidature unique et d'éventuelles réformes électorales. De Lomé, le reportage de Kylie Lawson.
Jean-Pierre Fabre, le président de l'Alliance nationale pour le changement, a été choisi par 8 partis politiques comme leur candidat à la prochaine présidentielle au Togo sous la bannière du combat pour l'alternance politique en 2015, en abrégé CAP 2015. La désignation d'un candidat unique est une stratégie politique, nous dit Jerry Tama, le président du nouvel engagement togolais net, sociétaire de CAP 2015.
Si l'opposition veut gagner et conserver sa victoire, il est important de rentrer dans une dynamique unitaire qui a 2 étapes. La première étape, c'est de désigner un candidat unique. La deuxième étape, c'est de mobiliser toutes les populations et les forces vives nationales pour la victoire en 2015. Donc là, nous venons de franchir la première étape. La deuxième étape, qui est sans aucun doute la plus importante, c'est d'organiser les populations togolaises, d'organiser les forces vives de la nation pour concrétiser les aspirations du peuple togolais qui sont l'alternance politique en 2015.
Deux partis parlementaires tels que l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI et le Comité d'action pour le renouveau CAR se sont dissociés de la candidature de Jean-Pierre Fabre, car soutiennent-ils, choisir un candidat unique avant les réformes est synonyme d'accepter d'aller aux élections sans les réformes. À cet effet, le CAR et l'ADI comptent introduire une proposition de loi à l'Assemblée nationale, mais ils auront besoin de 19 signatures, alors qu'à eux deux, ils ne totalisent que 8 députés. Maître Dodia Pévon, président du CAR.
Tout le monde étant d'accord finalement que c'est les réformes qui sont le socle de ce que nous allons faire demain. Donc, pour le bien de ce pays, pour que le gouvernement ou le régime qui nous ballotte depuis plus de 50 ans maintenant n'ait pas la main définitivement, je suis sûr que tous les députés de l'opposition s'associeront à cette initiative. Nous sommes en train de parler avec les autres pour que les 19 signatures soient obtenues pour que la proposition soit déposée. Si la proposition est refusée par le gouvernement, nous attendons de voir. Non. Mais les gens doivent tirer le son de ce qui se passe ailleurs.
Le président du CAR veut faire allusion au soulèvement du peuple burkinabé qui a conduit Blaise Compaoré à la démission. S'inspirant de leurs voisins du Nord, CAP 2015 appelle à une manifestation le 21 novembre prochain pour exiger les réformes. Directement, le président du NET.
Sur la question des réformes, nous sommes très engagés pour mettre tout en œuvre pour obtenir des réformes au Togo. Les peuples frères du Burkina Faso ont pris leur destin en main, ont mis un terme à une situation qui était intolérable, à savoir la confiscation de la démocratie. Puis un exemple pour nous inspirer sur la bataille politique des populations togolaises, en insistant bien entendu sur le côté pacifique de la contestation politique. Comme on l'a vu au Burkina Faso, il faut faire confiance aux forces de défense et de sécurité.
Pour faire bouger les lignes, CAP 2015 compte sur une importante mobilisation de la population togolaise, à l'instar de la mobilisation du 12 juin 2012 qui a rassemblé plus d'une centaine de milliers de personnes dans les rues de Lomé. Kylie Lawson pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Au Bénin, le gouvernement a lancé un appel d'offres pour recruter de nouveaux partenaires en vue de la mise en place de ce qui est connu comme le programme de vérification des importations de nouvelle génération, un projet autrefois géré par la société Bénin Control de l'homme d'affaires controversé Patrice Talon. Ses avocats ne l'entendent pas de cette oreille et contestent la démarche de l'État béninois. Depuis Cotonou, le reportage de Peggy Ludovic Dagba.
Sans attendre le verdict du recours qu'il a formé contre la sentence de la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan, la CCJA, dans l'affaire suspension du contrat PVI Nouvelle Génération qui l'oppose à la société Bénin Contrôle du groupe Talon, le gouvernement béninois vient de lancer un appel d'offres pour désigner de nouveaux partenaires pour le programme. Maître Charles Badou, l'un des avocats de Bénin Contrôle.
Il se fait qu'au jour d'aujourd'hui, si ces appels d'offres aboutissaient, et si le gouvernement parvenait à trouver des partenaires qui se voient juger le marché de PVI, la sentence arbitrale dans son exécution deviendra impossible. Parce que rappelons, que dit la sentence arbitrale? La sentence arbitrale, premièrement et foncièrement, condamne l'État béninois à exécuter le programme PVI, Nouvelle Génération. Et c'est seulement si l'État béninois ne s'exécutait pas que la condamnation de 129 milliards devra être exécutée par le gouvernement.
Maître Elie Vlavounou, un autre avocat de Bénin Contrôle SA, trouve que le gouvernement fait courir un risque certain à l'État béninois en laissant cette procédure aller à son terme.
Il est évident que si le gouvernement conduisait à terme ce processus, c'est qu'effectivement il se met en difficulté lorsque la Cour aura à confirmer la sentence. Sauf si le gouvernement est prêt à engager, à exposer les données publiques. En tout cas, nos ressources, car n'oublions pas qu'à défaut d'exécuter avec Bénin Contrôle le programme, le gouvernement aura payé 129 milliards. C'est une option. Si le gouvernement veut, il peut faire cette option-là. Mais cette option comporte un risque. Et le moment venu, il faut que le gouvernement soit prêt également à assumer le risque que comporte cette option-là.
D'où l'importance de l'alerte du groupe Talon sonnée par ses avocats afin d'éviter des dérives et des complications qui feraient du tort à l'État béninois. Maître Charles Badou.
Il est de sagesse qu'en attendant que cette décision soit rendue, qu'aucune des parties ne prenne des actes qui vont rendre impossible l'exécution de la décision justement que cette juridiction aura à rendre. Donc la sagesse aurait voulu que tout le monde attende la décision de la CCJA avant d'entreprendre des actes, soit dans l'exécution ou dans un autre sens.
La Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan n'a pas de délai pour rendre sa décision. Mais en attendant, il ne faut pas faire courir de risques inutiles. L'État recommande les avocats du groupe Talon. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Abordons encore une fois la lutte contre Ebola, un combat qui pousse les agences humanitaires à diversifier leurs activités. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, est l'une d'elles, exemple en Guinée, où l'organisme est en train de superviser la construction de 13 centres de transit et de 41 centres de traitement, hormis l'habituelle distribution de vivres. Claire Morin-Gibourg a voulu en savoir davantage avec Elisabeth Faure, la directrice du PAM en Guinée.
Le programme alimentaire mondial se concentre vraiment sur l'appui alimentaire et nutritionnel pour les personnes qui sont touchées par le virus Ebola, c'est-à-dire les patients dans les centres de traitement qui reçoivent 3 repas par jour et aussi les familles, les communautés affectées, vraiment en Guinée forestière qui est la zone de la Guinée la plus touchée. Donc on se concentre sur ces zones-là en appuyant ces populations à travers des vivres, donc alimentation et nutrition. C'est surtout pour les aider aussi pour stabiliser la situation, parce que beaucoup de personnes qui sont des cas contacts doivent rester chez eux pendant 21 jours et ne doivent pas contaminer d'autres personnes. Et pour ça, il faut que ces personnes et que ces familles aient de quoi manger. On ne peut pas empêcher les gens de bouger sans qu'ils aient vraiment de quoi se nourrir.
Plusieurs agences d'aide humanitaire, dont le PAM, doivent s'adapter à cette nouvelle réalité de terrain et se diversifier dans ses activités. Vous vous êtes engagé à travers de nouveaux types de programmes et notamment vous supervisez la construction de centres.
C'est ça. En plus de l'appui alimentaire et nutritionnel que le PAM fait en Guinée, on nous a aussi demandé de construire des centres de traitement Ebola. Donc c'est un appui logistique, mais c'est pas seulement de la supervision. On construit avec les ingénieurs des centres de traitement. On a commencé déjà 2 centres de traitement et en tout, on devrait en construire 4. Et naturellement, c'est extrêmement urgent. À côté de ça, le PAM gère aussi un avion. C'est un avion humanitaire qui transporte le personnel humanitaire, c'est-à-dire des médecins, du personnel des ONG, etc., qui travaillent sur le terrain pour atteindre les zones qui sont très difficiles d'accès par la route. Donc on gère cet avion. En plus de ça, on a aussi le service logistique, c'est-à-dire transport de tout le matériel, que ce soit du matériel médical. Bon, il y a les vivres, bien sûr, du PAM, mais il y a aussi beaucoup de matériel pour les centres de traitement. Tout ce qui touche à la réponse Ebola, il faut une logistique assez compliquée. Et le PAM apporte son expertise logistique là-dedans.
Elisabeth Faure, directrice du Programme alimentaire mondial en Guinée. Vous l'avez compris, c'est l'heure des nouvelles sportives. Football, pour démarrer avec la saga autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, le Maroc n'en démord pas et continue de demander un report de la CAN 2015, prévue du 17 janvier au 8 février dans le Royaume. Rabat réclamait un délai d'un an en raison de l'épidémie d'Ebola. L'annonce du ministère marocain des Sports prend à contre-pied le refus catégorique de tout report de la Confédération africaine de football, la CAF, qui avait octroyé 5 jours au Maroc Maroc pour confirmer l'organisation de l'épreuve en janvier ou jeter l'éponge. L'instance panafricaine prévoit une réunion mardi à son siège du Caire pour prendre les décisions qui s'imposent, dit-elle, à la lumière de la réponse de Rabat. Football encore, résultat des demi-finales allées de la Coupe du Cameroun disputée hier dimanche. 0-0 entre Panthère Ndé et Canon Yaoundé. Score similaire entre l'UMS Loum et Coton Sport Garoua. Les matchs retour seront disputés mercredi et jeudi. New England s'est qualifié hier pour les demi-finales du championnat nord-américain de football où il affrontera New York. New England a remporté son quart de finale retour 3-1 face à Columbus qui a terminé la rencontre à 9. New England avait déjà remporté le match aller sur la pelouse de Columbus 4-2. En demi-finale ou finale de conférence Est, New England retrouvera les New York Red Bulls de Thierry Henry qui ont éliminé la veille DC United, la veille la meilleure équipe de la saison régulière. Les NYRB ont remporté leurs deux matchs de saison régulière contre New England 2-0 et 2-1. Et je termine avec les résultats des matchs de dimanche dans la NBA, le championnat de basket nord-américain. Victoire de Toronto 120-88 face à Philadelphie, Orlando 96, Brooklyn 104, Utah 97, Détroit 96, Sacramento 93, Oklahoma City 101, Miami 105, Dallas 96, Golden State 95, Phoenix 107, Denver 100, Portland 116 et Charlotte 92, LA Lakers 107. Le rendez-vous musical du matin avec Roger Muntou, évidemment. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Alors qu'il est actuellement en pleine actualité avec la sortie de son nouveau disque intitulé 1989, la chanteuse Taylor Swift a les honneurs du célèbre établissement Madame Tussauds, hein, un musée de cire qui expose des statues représentant des personnes célèbres, qu'elles soient contemporaines, historiques ou imaginaires, éventuellement hein, dans des reconstitutions de scènes mémorables dont elles ont été les protagonistes. On l'écoute ce matin dans Shake It Off. I say I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-mm. That's what people say. Mm-mm. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the players gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake.
Cette semaine, Shake It Off de Taylor Swift est numéro 1 dans le hit parade américain. C'est à Hollywood que le double de cire de Taylor Swift a été dévoilé la semaine dernière, le même jour que la sortie de son album, Roger.
Oui, Jacques, déjà en 2010, Taylor Swift avait eu droit à son double hein, et les artistes de l'établissement avaient voyagé jusqu'à Nashville, berceau de la country, pour rencontrer la star et prendre ses mesures. 4 ans plus tard, la jeune femme est plus populaire que jamais et a donc droit à un nouveau double. La chanteuse de 24 ans est désormais exposée dans une tenue de scène qu'elle portait lors de sa dernière tournée Red Tour. Bien évidemment, hein, Taylor est équipée de sa fidèle guitare. Jacques, elle rejoint ainsi d'autres stars de la musique comme Céline Dion ou Justin Bieber. Cool, hein?
Très cool, en effet, Roger. Ne vous en faites pas. Vous aussi, vous aurez un jour votre statut de cire. Voilà, Taylor Swift, Shake It Off. Merci, Roger.
C'est moi qui vous remercie, Jacques. Une dédicace ce matin à tous nos auditeurs de Lafia Bougou à Bamako.
Roger Muntou, le chef d'orchestre du RM Show. Rendez-vous quotidien à 20h TU.
Shake.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci de votre fidélité. Très bonne journée de lundi sur la VOA. À demain matin. Take care.